littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. De sexomorphose à la transidentité. Saul Pandelakis, Morgan Stankiewicz, modération Sarah Doc.
Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. Dans l'histrion et sexomorphose d'Ayurdal, Emeline peut douloureusement changer de sexe à volonté. Dans la même gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, on rencontre un peuple qui ne voit en ses semblables ni homme ni femme, c'est uniquement en tant qu'être humain qu'on y est respecté et jugé, et qui, par poussée hormonale, change régulièrement de sexe. On ne connaît pas le genre ni des uns ni des autres, et la question ne se pose pas. Pas plus que chez John Varley ou Neil Gaiman. Par contre, les chaînes à éluons de Becky Chambers, s'ils changent de sexe, ne changent jamais de genre. La question de la transidentité se pose cependant déjà chez Joanna Russ, dans Le Rivage des femmes, où les vrais hommes ratés sont forcés à subir transformations chirurgicales et changements de rôle social. Il faudra toutefois attendre le 21e siècle pour que la transidentité soit représentée de manière positive, comme dans Playgirls de Jana Lebatz, ou L'incivilité des fantômes de River Solomons, comme dans Sense8 des Sœurs Wachowski. Pour discuter de cette question du passage du fantasme à une réalité, pour faire le tour du langage qu'il a défini, je suis entourée de Saul Pandelakis, écrivain, enseignant, chercheur et activiste, dont le premier roman, Rechute, vient de paraître aux éditions Goater, et de Morgan Stankiewicz, autrice caméléon, fondatrice des éditions Noir d'Absinthe, et qui a écrit tellement de choses qu'on ne peut pas vraiment les résumer. Et elles vont nous aider à établir la transidentité pour les nuls. Pour cela, j'ai rempli mon chapeau de questions, parfois un petit peu bêtes, parfois totalement ignorantes, pour que nos invités puissent y répondre et nous aider tous. Je crois que beaucoup d'entre vous n'en ont pas besoin, mais ce n'est pas grave, à comprendre un petit peu de quoi on parle. À vous.
Quelle introduction, merci. J'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé, mais c'est parfait. Alors, peut-on considérer les millions de femmes ayant vécu sous identité masculine comme des transgenres ? Très bonne question que je ne suis pas sûr de complètement comprendre. C'est quoi ces millions de femmes sous identité ?
Par le passé, pendant des siècles et des siècles, des millions de femmes, pour des tas de raisons, pour devenir militaires, médecins, pour exercer certaines professions ou pour simplement choisir leur vie, ont vécu une existence entière sous identité masculine, et on a découvert leur genre généralement qu'à leur mort, lorsqu'on les a déshabillés pour les mettre dans un cercueil.
Mais elle est super compliquée, cette question. En fait, elle peut faire la conférence. Alors, bien sûr, oui et non, on peut les exclure. C'est déjà beaucoup trop facile et ça ne collerait pas. En réalité, c'est... Là, on pose une question à nous qui avons notre expérience de quelle est l'expérience d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Donc déjà, est-ce que des femmes qui ont vécu sous identité masculine sont transgenres ? Peut-être, peut-être pas. En fait, la seule personne qui pourrait répondre à ça, c'est la personne qui est concernée. C'est quelle est son identité, parce que l'identité... toute l'existence, elle consiste à avoir une identité qui nous est collée sur le dos. Et une grande partie de l'existence, c'est de lutter pour affirmer sa propre identité. Ce qui est vrai dans la transidentité, mais pas seulement. Et d'ailleurs, dans le mot transidentité, il y a identité. Donc je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas concerné, enfin, pas dans ce cadre précis. Et seuls les concernés pourront répondre.
Je trouve que ta réponse est très sage. Je ferai un peu la même, peut-être en complétant, dans le sens... juste pour dire que c'est une vieille question, en fait. Tous ces termes, transidentité, même homosexualité, sont des inventions relativement proches de nous, parce que ce sont des inventions, ce sont des termes qui sont apparus à un moment donné. Michel Foucault en parle, d'ailleurs, quand il nous dit qu'il y a un moment historique où on parle d'identité, donc on va dire par exemple homosexualité, là où avant on aurait parlé de pratique. Voilà, un homme surpris avec un autre homme au XVIIe siècle, c'est pas un homosexuel, c'est quelqu'un qui pratique la sodomie, ce qui n'est pas la même chose. Là je synthétise énormément. Et du coup, ça pose la question, mais qui est insoluble, que Didier Ribon s'est posée après Foucault, de est-ce qu'on peut utiliser des termes contemporains pour désigner des expériences antérieures. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très compliqué de parler de personnes qui ont eu des expériences qui sont loin de nous et qui sont en plus plus là pour les désigner. Je pense que la question, c'est pas, par exemple, est-ce que ces femmes qui ont vécu comme des hommes étaient des hommes trans, parce que c'est une question anachronique, mais de dire, en fait, ça nous regarde, ça fait partie d'une galaxie trans ou d'un trouble dans le genre. Et à cet égard, c'est intéressant pour nous, parce qu'en fait, leurs expériences résonnent avec nous, avec ce qu'on vit, et ça peut nous informer. Donc la question, c'est comme souvent d'ailleurs sur toutes ces histoires queer LGBT, pas de savoir qui est un tel ou une telle ou une question d'identité, mais de ce que ça nous fait, en fait. Oui, madame.
Allez.
Alors, comment exprimer la transidentité sans douleur et sans passer par le DSM? Alors, il y a deux questions dans une seule question, je suis bien
alors,
marrée.
Alors, le DSM, je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est une espèce de dictionnaire des maladies mentales qui est publié quasiment tous les ans par des psychiatres qui réfléchissent à la question. Or, la transidentité a très longtemps été considérée comme une maladie mentale et est encore considérée par certains psychiatres comme une perversion.
Ben alors en plus, je vais être prudent parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas collé la question du DSM parce que, comme tu le disais, c'est un ouvrage qui est mis à jour et qui est réédité fréquemment avec des termes qui rentrent et qui sortent. Par exemple, l'homosexualité en est sorti. La particularité de la transidentité, si ma mémoire est bonne, donc là vraiment je parle prudemment, c'est que c'était présent comme transsexualisme dans les pages du DSM. Et ça a été remplacé par dysphorie de genre. Après, je n'ai pas vérifié récemment ce que c'était devenu. La question est, est-ce qu'on peut ne pas passer par le DSM pour exprimer la transidentité, pardon, justement. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être trans sans se revendiquer du DSM. Seulement, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où les transitions de genre, quand on veut avoir accès notamment à des soins, si on est sur le cas d'une transition médicale, on doit passer devant des membres du corps médical qui sont encore un très grand nombre à utiliser peut-être pas le DSM.
D'où ma question, en fait, parce que par exemple, en Belgique, ce n'est plus le cas.
Bon, en France, pour transitionner et être remboursé par la Sécurité sociale, il faut obtenir une ALD, donc un dispositif de remboursement qui est attribué à certaines conditions. Et pour l'heure, il faut encore passer par un certain nombre... il faut demander des lettres à des psychiatres, à des endocrinos. Après, ce qui est particulier avec toutes ces questions, c'est aussi la même question pour l'état civil, c'est qu'il y a une grosse différence, et là peut-être Morgane, tu pourras ajouter des choses, mais entre ce qui est dit dans les textes, où on vous dit non, vous n'avez plus besoin de la lettre du psychiatre, ou par exemple, il n'y a plus besoin d'avoir des lettres des proches pour changer d'état civil, et les pratiques. Et bien souvent, les personnes concernées, par peur de se voir refuser soit des soins, soit un changement d'état civil, vont quelque part blinder leur dossier et intégrer ces documents quand bien même ils sont plus nécessaires. Donc moi j'aurais tendance à dire sans douleur sans doute pas parce que transphobie etc. Et sans DSM difficilement, ou en tout cas on est encore dans un cadre épistémologique qui est quand même fortement marqué par ce document et son esprit quoi.
Alors moi ça va plus être pour compléter parce que j'ai rien à... Plus, apporter même un éclairage différent, parce que ce que tu dis, effectivement, c'est très vrai. Encore que ça dépend des régions, parce que sur le traitement médical de la transidentité, ça va être géré très différent selon l'endroit où se trouve. J'ai une amie qui est psy, qui est cisgenre, qui n'est pas trans elle-même, et qui accompagne des personnes trans du côté de Nancy, où elle m'explique que pour avoir accès à des hormones, que ce soit de homme vers femme ou de femme vers homme, il faut passer par un psychiatre qui donnera des lettres après pour aller voir un endocrinologue, donc qui prescrit des hormones, et le tout accompagné par le médecin traitant, et ça prend un an quand c'est rapide. Moi, j'ai fait ma transition à Rennes, et la transition hormonale, j'étais vraiment médecin traitant qui a pu tout prescrire seul, parce qu'un médecin traitant a le droit de le faire légalement, il n'est pas obligé de passer par un endocrino, et c'est une question de politique et de choix en fait, des médecins. C'est que des médecins peuvent décider de se former, de se rapprocher d'associations trans pour finalement... pouvoir choisir eux-mêmes ce passage. Mais ce que tu dis, dans certaines régions de France, il n'y a pas possibilité de faire autrement. Donc la loi ne l'impose pas, mais dans les faits, c'est imposé. Et pour revenir sur un autre point qui me semble important, c'est sur la douleur. Et tu as mentionné la dysphorie de genre, qui est la dysphorie, c'est le fait, c'est l'inverse de l'euphorie, hein, dysphorie de genre, donc le fait de ne pas se sentir bien dans son identité sociale, dans son corps, c'est différent selon les personnes, et ça qui crée une douleur psychologique qui ne peut être traitée qu'en transitionnant. À la base, c'est pour ça que les transitions étaient autorisées et ont fait partie du cadre psychiatrique. Aujourd'hui, c'est moins le cas et on accepte plus qu'une dysphorie de genre n'est pas forcément nécessaire et que ce n'est pas une question uniquement de souffrance mentale et la transition n'est plus un remède à une souffrance mentale. C'est une identité et là, ça change tout. Et le DSM, je ne le connais pas précisément, mais je crois qu'il va dans ce sens-là. Mais on parle beaucoup de dysphorie de genre, c'est-à-dire de la souffrance d'être dans un autre genre, la souffrance sociale, la souffrance morale, la souffrance physique, la souffrance. Et quelque chose qui n'est très rarement mentionné, c'est l'euphorie de genre. Et alors ça, c'est une expérience très personnelle, mais le fait de pouvoir assumer son identité et d'être reconnu comme tel, c'est pas seulement quelque chose qui va faire un antidouleur, mais c'est quelque chose qui va juste être bien, en fait, et faire se sentir bien. Et on n'est plus dans un simili antidépresseur, enfin, pour faire un raccourci, mais c'est un peu l'idée pourtant que ça incluait, hein, la transition au sens purement psychiatrique. Et c'est pas ça, c'est juste le fait... Oui, d'être en accord avec soi, d'être en accord avec l'image qu'on propose, en accord avec ce que les gens perçoivent. Donc forcément, il n'y a jamais une absence de douleur, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quel individu. Bon, la transidentité en rajoute, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais en même temps, il y a aussi ce côté où il n'y a pas que ça.
Question suivante.
Oh, quelle est la différence entre sexe et genre ?
Je vous ai dit qu'il y avait des questions stupides.
Alors, le sexe est un organe. Le genre n'est pas un organe. Et en vrai, je plaisante, mais c'est exactement ça. C'est que le sexe est une caractéristique biologique qui est partagée par un certain nombre de membres de l'espèce, mais encore que ce n'est pas aussi binaire qu'on voudrait le croire. Je ne sais plus le pourcentage des intersexes, mais ce que je me souviens, c'est que les personnes qui ne sont pas complètement mâles ou femelles, en tout cas dans les définitions classiques, sont plus nombreuses que les roues. Bon, il n'y a pas beaucoup de roues, mais quand même, ça vaut la peine d'être mentionné, donc je ne me souviens plus des pourcentages, je suis très mauvaise pour ça, mais ça donne une référence. Le genre, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que quand ce matin je me suis levée, ma robe, elle n'a pas poussé comme mes cheveux. Ce n'est pas partie de la biologie, ça ne fait pas partie de moi. C'est quelque chose que j'ai choisi de porter et qui aujourd'hui est extrêmement connoté. Et ça renvoie une identité qui n'a rien à voir avec ma biologie. Et donc, je le dis de manière très simple, mais c'est la différence entre l'aspect purement biologique et tout ce qu'on a collé par-dessus. Parce que aujourd'hui, naître avec un pénis, ça fait qu'on reçoit une éducation de garçon, qu'on a le droit de porter des vêtements de garçon, qu'on doit s'exprimer comme un garçon, etc. Et naître sans pénis, eh ben, ça fait l'inverse. On n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes vêtements, on n'a pas les mêmes jouets, on n'a pas les mêmes rapports à l'autre, et tout change en fonction de ça. Mais ce sont deux identités qui n'ont foncièrement rien à voir l'une avec l'autre. Il n'y a pas beaucoup de justifications qui font que un camion, c'est parce qu'on a un pénis. Enfin, je comprends pas. En tout cas, je n'ai jamais compris. Mais pourtant, c'est tout le cœur du problème.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un pénis pour jouer avec un camion ?
Je pense que oui, mais je n'ai jamais compris pourquoi.
Au
Bah, merci beaucoup. J'espérais ne pas tomber sur cette question en premier. En fait, ce qu'il faut aussi ajouter, parce que donc ça, c'est vraiment une définition de base et c'est là-dessus qu'on opère aussi pour discuter de transidentité et d'expression de genre. Dans certains cas, c'est compris par certaines personnes comme « Ah, mais il y a quand même une vérité du côté du sexe, donc il y a bien quelque chose, il y a bien une nature profonde. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le genre est plutôt du côté de l'expression sociale des personnes et le sexe plutôt du côté de la biologie, le sexe aussi est une réalité construite par les sciences. Et historiquement, et il faut vraiment revenir sur cette histoire, il y a eu un moment où on a consolidé les différences de sexe et en même temps les différences de genre, puisque le sexe et genre étaient pensés comme absolument connectés, l'un étant l'expression naturelle de l'autre, et ça faisait partie d'un projet politique très précis. Et par exemple, si on suit l'activiste Alok, qui fait beaucoup de choses en ligne sur ce sujet, et qui cite plein de sources intéressantes, on découvre que le moment où vraiment on a tenu à ce qu'il y ait une différence maximale entre hommes et femmes, c'était dans le contexte du colonialisme. Puisque les personnes, bah souvent eugénistes, les scientifiques qui étudiaient la différence des sexes, disaient que plus une race était évoluée, plus la différence homme-femme était marquée. Donc cette histoire de transphobie, de sexisme, elle est étroitement liée aussi à l'histoire du colonialisme. Et on n'a pas des sexes uniquement parce qu'on est de manière sexuée, ça c'est vrai bien sûr, il y a du bios, on ne sort pas d'un monde des idées. Mais immédiatement, cette réalité corporelle, elle est codée et elle est traduite en savoir. Et la manière dont cette sexuation, elle est traduite en savoir, ben, elle est bien sûr pas neutre. Elle dépend de qui écrit les livres d'anatomie, les livres de sciences, et ainsi de suite.
Ben maintenant, c'est ton tour de piocher une question.
Quel est le lexique de la transidentité et de son militantisme ? Bien, ben, vous nous quitterez à 22h. Voilà.
Faudra qu'on nous apporte à manger et à boire à un moment donné.
Bon, bah, allez, le premier qui me vient, le dead name. Alors, il faut signaler avant de définir ce mot-là que, pour des raisons là aussi historiques, une grande partie du vocabulaire de la transidentité est anglophone. Ce qui n'est pas mal en soi, mais ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, soit de traduction, soit parfois aussi de développement d'une espèce de novlangue qui n'est pas tout le temps compréhensible par tout le monde. Voilà, donc voilà, ça peut être compliqué à cet endroit-là. Le dead name, c'est le nom qui est donné à la personne à sa naissance et qui est abandonné au profit d'un prénom plus en phase avec l'identité de genre. Alors, il faut bien signaler que toutes les personnes trans ne changent pas de prénom. Certaines ont la chance d'avoir un prénom déjà épicène ou neutre, enfin, je ne sais pas comment le dire. Il y a aussi des gens qui masculinisent ou féminisent leur prénom. Et puis, il y a des gens, comme moi par exemple, qui changent complètement. Le dead name, c'est un lieu de violence potentielle. Puisque bien sûr, quand une personne essaie de s'affirmer dans un genre et dans une identité, le ou la ramener à cette identité précédente qui marque le genre quitté ou non souhaité, bah, c'est une manière de nier ce que la personne essaye de dire d'elle-même. Et pour terminer juste sur ce mot-là, ça pose plein de problèmes. Enfin, là, on est entouré d'auteurs et d'autrices. Bon, bah, on sait très bien qu'il y a des grands auteurs, grandes autrices qui ont publié sous leur dead name, qui n'ont pas forcément envie de réimprimer l'intégralité de leurs ouvrages. Dans mon cas, des articles de recherche. Bon, il y a une relation curieuse au dead name. Il y aurait plein de choses à en dire. Bon, littéralement, le nom mort. Moi, je ne considère pas que mon nom d'avant est mort. C'est juste que je ne l'utilise plus. Mais voilà, bon, c'est un mot, peut-être que tu peux en faire un autre, je ne sais pas.
Alors le seul qui me vient, il va aussi durer la soirée, quoi. C'est TERF. Et là on parle de militantisme, donc ça fait rire certaines personnes, mais parce que les TERF, alors en plus il faut que je le prononce à l'anglais, je me galère toujours, même leur nom est compliqué. Le Trans Exclusionary Radical Feminist, pas si mal. Et qui est une mouvance soi-disant du féminisme qui est en fait essentialiste. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la différence sexe et genre, ce sont des personnes qui estiment que la transidentité n'existe pas vraiment et que donc on est assigné à notre sexe biologique ad vitam aeternam. Et c'est une idéologie qui s'est beaucoup développée au Royaume-Uni et aux États-Unis et qui a des porte-paroles qui existent aussi en France et qui prend de plus en plus de place dans les réseaux féministes et militants et dont on entend des fois parler sans forcément savoir ce que c'est parce que les TERF ne se réclament jamais de... Vas-y.
Juste expliquer une petite chose pour les TERF, par exemple. Un transgenre, une femme transgenre est un homme qui veut se violer des femmes de manière plus facile. Et une femme transgenre est... Non, c'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse, en fait. C'est moi qui m'en mêle. Une femme transgenre est une personne qui veut violer des femmes. Un homme transgenre est une traîtresse.
Mais c'est exactement ça. Et donc, c'est un militantisme qui est de plus en plus vocal. Cette année, à la Gay Pride de Paris, il y a eu des TERF qui ont été devant, alors qu'il faut savoir que la Gay Pride est quelque chose qui a été lancé par des femmes noires, trans, et qui sont aussi travailleuses du sexe, parce que les TERF, en général, n'aiment pas non plus les travailleuses du sexe. Et des personnes qui voilà, sont de plus en plus vocales, qui ont publié une tribune il n'y a pas si longtemps sur le Figaro. Et ils ont aujourd'hui, depuis quelques années, vous en avez peut-être entendu parler, J.K. Rowling elle-même, donc la créatrice d'Harry Potter, qui est une porte-parole pseudo-cachée, mais pas tant que ça, dès qu'on creuse un petit peu, de ce mouvement radical qui vise à nier l'identité des personnes trans. C'est quelque chose qui, en France, porte aujourd'hui souci. Il y a beaucoup de harcèlement en ligne, notamment par des personnes TERF, mais au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est vraiment très grave. Ça joue aussi sur certaines lois qui sont des fois passées, notamment dans des États américains qui peuvent être très conservateurs, qui vont être appuyés par des TERF. Ou même en France, d'ailleurs, parce que là, récemment, il y avait une loi qui était débattue en première instance sur les thérapies de conversion, qui sont toujours légales en France. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, tant que la loi n'est pas passée, il est possible d'avoir une thérapie pour se soigner de l'homosexualité ou de la transidentité. Donc ça existe encore aujourd'hui. Et il y a eu des pressions de ces TERF, des pressions, du lobbying de ces TERF auprès de je ne trouve plus le mot, de députés, pour exclure les trans de cette interdiction de thérapie de conversion. Donc ça en est encore là aujourd'hui. Donc c'est un mot qu'on entend parler comme ça, qui passe régulièrement sur les réseaux, mais qui est très important parce qu'il a une dimension politique et surtout c'est caché et c'est des personnes qui se disent féministes, mais qui finalement reproduisent des mécanismes de pensée qui se rapprochent beaucoup du fascisme et qui presque des rapports qui sont presque sectaires aussi sur ce côté. On auto-crée un fantôme, cette femme transgenre qui est un homme qui veut violer. Enfin, c'est un fantôme, c'est un homme de paille pour le coup. Mais cette idéologie prend beaucoup de place. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, être trans et simplement, c'est aussi un combat de tous les jours. Parce qu'il y a ces idéologies qui veulent nous nier. Mais là, je parlais de thérapie de conversion, c'est tout de même de la torture. Et ces personnes-là veulent que la torture reste légale pour des personnes trans.
On pioche une autre question ou tu as un nouveau mot ?
Non, mais juste pour ajouter, pour aller dans ton sens... que c'est le sujet actuel, il faut absolument le traiter, il faut absolument qu'il y ait un soutien de personnes, et vocales, quoi, de personnes féministes, cis, autres, même voilà, hommes cis, mais d'être très clair et de... Enfin, on a besoin que des gens se positionnent très clairement par rapport à la question des TERF. Judith Butler l'a fait il y a deux jours, je crois, elle les a appelés très clairement des fascistes, et oui, il faut le dire et le redire, les TERF sont des fascistes. Voilà.
Oui, mais j'ai beaucoup parlé. Quel lien entre mouvement queer et imaginaire ?
C'était dans l'intitulé du débat, donc qu'il fallait quand même que je le place quelque part.
Tout à l'heure, tu as mentionné une série qui s'appelle Sense8 et qui pour moi est très importante, cette série, parce que c'était la première fois que je voyais une représentation de personnages transgenres dans une œuvre tout court. Malheureusement, j'aurais bien aimé dire grand public, mais non. C'était grand public, mais c'était tout court. Qui montrait un personnage trans comme un personnage. Juste ça. Enfin, c'est-à-dire que c'était plus un personnage qui était là pour faire rire, pour être ridiculisé, ce qui existe depuis très très longtemps. Ça, il y a un très bon reportage sur Netflix dont j'ai oublié le nom. Si, Disclosure. C'est celui-ci qui parle du lien entre la transphobie qu'on a pu voir dans les films, enfin à Hollywood, et le racisme et le blackface, tout ça qui sont nés en même temps de même personne. C'est assez effrayant. Et la représentation au final des personnages trans, mais je pense que ça vaut pour la plupart des minorisés, mais c'est vrai que la transidentité est encore très a beaucoup de chemin à faire pour être correctement représenté. Il manque aujourd'hui beaucoup de personnages simplement auxquels on peut s'identifier. Et en tant qu'individu, mine de rien, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, tout cela, ça participe à ah, ça c'est dans le champ des possibles. Ça, ça existe. Ça, c'est en fait simplement. Et le fait de se rendre compte que un modèle peut correspondre et peut nous indiquer, tiens, c'est du registre possible, ça interroge sur beaucoup de choses, et quand on est concerné, ça peut dire, ah bah oui, le pourquoi pas soi. Et je pense que l'imaginaire là-dedans a un rôle qui est absolument fondamental, parce que les représentations aujourd'hui, l'imaginaire, c'est une des cultures les plus visibles, en fait, surtout au cinéma, un peu moins en littérature, mais au cinéma ou en jeux vidéo, c'est majoritaire, c'est écrasant, c'est partout, c'est grand public. C'est là où il y a possibilité de montrer des nouveaux, de montrer en fait des points de référence pour les individus. Et donc, en tant que personne queer, c'est important de voir des personnages et des vrais personnages. Je reviens dessus parce que pas juste identifié à un point de caractère comme on pouvait avoir le noir du film, l'homosexuel du film et puis finalement le ou la trans du film. Et c'est une approche qui fait vraiment beaucoup de mal, ça je trouve. Et ce qu'il faut, c'est trouver des vrais personnages. Et ça, ben, c'est aussi un défi permanent, parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est sous-représenté, la transidentité. On n'a pas tant que ça d'œuvres à citer. Hein. Quand on en discutait sur qu'est-ce qu'on pouvait citer, ben, mine de rien, tout à l'heure, tu as à peu près tout dit.
Il existe des textes aux États-Unis, beaucoup pour les jeunes adultes, qui traitent de la question et qui la représentent, semble-t-il, assez bien, comme Supervillains, par exemple. Des histoires de super-héros ou des histoires de loups-garous où, en fait, la véritable identité de genre du personnage arrive à la pleine lune, où la jeune fille se transforme en garçon et elle préfère de très loin être un garçon, mais ça n'arrive qu'à la pleine lune.
C'est parfait. Mais oui, voilà, pour finir, et puis après je laisse la parole, c'est... ça manque toujours beaucoup et c'est un travail qu'on doit faire, nous, quelque part, en tant que personnes concernées, mais on n'est pas non plus que des personnes concernées, donc toutes nos littératures et notre art ne tournent pas non plus qu'autour de cette question. Hein, et c'est bien aussi d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément concernées, qui incluent le plus possible. Et on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, mais c'est ça l'importance de l'inclusion, c'est de pouvoir permettre une représentation, une compréhension du monde et des choses qui, si elles ne sont pas expliquées, si on ne voit pas ce champ de possible, on se sent juste monstrueux, en fait, à la norme, à la marge. Et c'est important de voir qu'il y a d'autres, juste ça.
Alors je compléterais ce que tu as dit, ce que tu es sur un versant plus positif, au fond, il faut qu'on soit représenté. Donc ça, bien sûr, et on a besoin de plus de personnes queer dans les writers' room, dans les équipes de tournage, bien sûr, côté littérature. Mais il faut aussi que cessent les fictions punitives, parce qu'on en voit encore beaucoup. Elles sont très bien détaillées et expliquées dans le documentaire, donc Disclosure sur Netflix. Il y a on a quand même peu de fiction à se mettre sous la dent quand on est trans, en tout cas. Et quand on en regarde, l'immense majorité, on nous indique que être trans, c'est dangereux. Le personnage meurt en général dans des conditions atroces. Il y a une spectacularisation de nos corps, de nos identités. Donc il faut vraiment que ces fictions-là disparaissent. Et ça va aussi avec le fait de faire jouer des personnages trans par des acteurs et actrices cis, ce qui est bien sûr un problème. Mais du coup, cette question-là de lien entre mouvement queer et imaginaire, moi je dirais que le fondement, c'est que déjà s'affirmer comme trans, alors de moins en moins, parce que ça va un peu mieux, même entre guillemets, même si on a vu qu'avec les TERF, c'est pas évident, mais c'est un acte de l'imagination. Ça réclame une imagination folle, en fait, de pouvoir se projeter dans un autre genre, d'imaginer que ça va être possible, de se dire que malgré tout le polissage de genre qui existe dans le monde contemporain, partout, dès qu'il y a une carte d'identité, dès qu'il y a un formulaire, dès qu'il faut aller aux toilettes, dès que vous êtes en relation finalement avec quelqu'un, la question du genre se présente, ça demande une imagination de dingue. Et pour moi, c'est là que peut-être les personnes trans ont quelque chose, enfin peut-être queer aussi par extension, bien sûr, pas que les personnes trans, mais on a tellement besoin de cet acte d'imagination juste pour exister simplement que tous les contenus liés à l'imaginaire, quelque part, nous parlent et sont nos territoires.
Et faut-il obligatoirement être trans pour écrire un personnage trans ?
Bien sûr que non. Encore faut-il bien le faire ? C'est ça la question. Et c'est possible de se renseigner, c'est possible de s'informer. La question, c'est de pas... Et ça vaut encore une fois pour tous les minorisés, mais de ne pas projeter des fantasmes. Et il y a beaucoup dans... Tu parles de films qui sont joués par des cis, qui sont dirigés par des cis, écrits par des cis. Les personnes cis, ce sont les personnes qui sont en accord avec leur sexe biologique. Donc le sexe biologique, l'assignation de naissance, est en accord avec le genre dans lequel elles se reconnaissent. Donc qui n'ont, en gros, ce sont les personnes non trans, pour faire simple. Et... effectivement, il y a beaucoup ce côté, toujours le rappel du corps. Le nombre d'intrigues qui parlent de films, avec des fois des personnages trans principaux, mais pas souvent des acteurs ou actrices, ça va être autour de l'opération. Et ça va être autour du changement corporel, ça va être ramené au corps, ça va être avoir souvent un regard qui va être en plus ce qu'on appelle un male gaze, qui va être très masculin et qui va souvent faire des plans là-dessus. Et c'est épuisant parce que c'est complètement à côté de la plaque et surtout ça donne une image qui est fausse. Le nombre d'amis qui m'ont dit « Ah, j'ai adoré Danish Girl », pas moi.
Et en complément d'ailleurs, il y a des personnes trans qui ne souhaitent pas suivre de transition médicale. On n'a pas besoin d'une opération pour être un ou une vraie trans, entre guillemets, parce que la notion même de vraie trans, moi, me parle guère.
C'est ton tour.
Qu'est-ce qui fait le transgenre ? Alors, là, je vais faire le prof.
Mais ça correspond un petit peu à la réponse que tu viens de donner.
Oui, pas une seule chose, ça c'est sûr. Alors, moi, j'aurais tendance à re-questionner la question, parce que je ne sais pas ce que c'est que le transgenre, c'est-à-dire que la personne transgenre, éventuellement... ce qui fait la personne transgenre, je pense que Morgane l'a très bien expliqué, hein, c'est la sensation ou l'expérience de ne pas être en accord avec un genre assigné. Juste pour ajouter une chose, qui est que il y a 1000 expériences transgenres, mais comme il y a 1000 expériences cisgenres, je veux dire, si vous êtes 5 femmes cisgenres autour d'une table, vous n'avez sans doute pas la même définition de ce que c'est qu'être une femme. Idem si c'est 5 hommes cisgenres autour de la table, c'est pareil pour les personnes trans. Et c'est là justement où l'absence de représentation fait du mal, parce que souvent, comme ces représentations sont univoques, sont toujours les mêmes, répètent les mêmes clichés, ça donne l'idée qu'il y aurait une espèce d'essence trans, où les trans font ci, les trans font ça. En réalité, il y a 1000 expériences. Il y a des gens qui ne changent pas de prénom, il y a des gens qui prennent des hormones, qui arrêtent, il y a des gens qui se font opérer, des gens qui ne se font pas opérer, et puis des gens qui changent d'avis, qui finalement le font. Enfin, il y a 1000 parcours possibles.
Oui.
Alors, c'est ton tour.
Doit-on forcément passer par une transition médicale ?
La réponse a déjà été donnée.
Oui. J'en retire une autre parce que celle-ci, on l'a déjà faite.
Mais il y en a quelques-unes comme ça.
C'est bon signe, c'est qu'on... Qu'est-ce qu'un dead name ?
C'est déjà fait.
On appelle ça du spoiler.
Non, mais je trouve qu'on fonctionne bien puisque vous répondez aux questions avant même que je les pose.
C'est de la préscience. Où est l'importance de nouveaux pronoms ? Ah. Ça, c'est une question qui est compliquée. Parce que c'est une question compliquée à se poser quand on fait aussi de la littérature. Et alors là-dessus, j'ai donné aussi, c'est une expérience personnelle, c'est un point de vue, c'est pas forcément partagé, bref, je préfère le dire parce que, voilà. C'est, la création de nouveaux prénoms, pronoms, comme Yel, par exemple, il y a plusieurs façons de réinventer des conjugaisons pour être plus inclusives. C'est, pour moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup de la langue anglo-saxonne, enfin de l'anglais, où ça existait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que le them en anglais n'a pas été inventé récemment. Je ne sais pas quand c'est, mais on retrouve ça en littérature depuis très longtemps. Donc, ce qui fait qu'en anglais, pour changer la langue, finalement, on reprend des choses qui existaient avant et on leur donne ce sens un peu plus neutre. Mais la langue anglaise est beaucoup plus neutre. Tandis que la langue française, c'est super compliqué parce que la langue française est genrée. Et on a beau nous dire que le genre d'un mot n'a rien à voir avec le genre d'une personne, on sait bien que si. Quand on apprend le masculin l'emporte sur le féminin, oui, c'est uniquement en conjugaison. Ben non, c'est quelque chose qui est intégré. Exactement. Mais de là à créer des nouveaux pronoms, c'est toute une question. Je ne vais pas avoir de réponse définitive parce que d'un côté, la langue évolue et la langue évolue avec des choix. Genre, pour parler féminisme, le mot autrice s'est beaucoup imposé ces dernières années. Donc, c'était un mot qui existait déjà par le passé, qui avait été supprimé de l'Académie française, mais c'était un mot qui existait et qui finalement s'est imposé et devient aujourd'hui naturel. Une langue évolue. Une langue, c'est une langue vivante et le mot est bien choisi. Mais il y a aussi le côté entre l'artificialité de la langue qu'on peut rajouter. Et ça m'arrive effectivement de fois de lire des textes militants féministes et j'avoue qu'il y a des moments où je ne le comprends pas. Et je comprends de l'inclusivité, beaucoup de choses dans des textes non littéraires. En littérature, soit c'est étudié et ça apporte une réflexion supplémentaire. Et c'est un auteur ou une autrice qui a fait un travail là-dessus et qui propose une interrogation. Mais il n'y a pas de norme qui émerge aujourd'hui et qui se définit. C'est comme ça. C'est très compliqué au final parce qu'il y a plein de choses différentes qui ont tendance à se mettre et sans forcément de recul. Et il y a cette notion qu'en changeant la langue, on pourra changer les choses. Quelque part, c'est un petit peu vrai. Mais on voit dans des pays, je parlais de l'Angleterre, où justement les pronoms à l'ancienne existent déjà, c'était déjà vieux, c'est une langue qui est beaucoup moins binaire et genrée, et pourtant c'est là où sont les TERF. Donc à partir, on en revient là, mais c'est à quel point changer la langue artificiellement va faire avancer les choses, à quel point est-ce que ce n'est pas un effort supplémentaire qui est mis sur ce travail-là, alors qu'on peut, enfin, je parle surtout en littérature, alors que proposer des bons personnages, c'est déjà beaucoup. Et je préférais voir des auteurs ou des autrices qui travaillent leurs personnages plutôt que de se dire on va inventer des nouvelles façons de parler pour inclure tout le monde. Après, c'est une position, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais...
Alors, bon, courtement, je te rejoins, sachant que dans mon propre roman, je n'ai pas utilisé de l'inclusif tout le temps, voire même très peu souvent. Moi, j'aime bien l'idée qu'on s'en serve des fois, à certains moments stratégiques, pour signifier des choses, ou les pronoms aussi alternatifs. Enfin, les deux vont un peu ensemble, en fait. Les deux conversations sont associées. Juste très rapidement, je trouve que nous qui travaillons quand même avec le texte, il y a aussi un enjeu de ces questions-là, avec la forme graphique du texte et avec des caractères spéciaux qu'on peut créer. Et travaillant en graphisme, la question des glyphes, de ce qu'on va pouvoir inventer en typographie, c'est aussi ultra intéressant. Et ça peut être des pistes qui vont nous permettre de contourner peut-être des pronoms qui existent déjà, qu'on n'a pas envie d'utiliser, ou nous donner des pistes pour être plus créatif. J'aime bien l'idée que ça ne fasse pas un nouveau dogme, que ce soit les pronoms ou l'inclusive, mais qu'on essaye d'être créatif avec. Après, moi, dans mes textes théoriques, j'utilise l'inclusive. Je pense que ça matche bien avec un texte théorique. Pour la fiction, je te rejoins. Je trouve que c'est intéressant de ne pas se donner ça comme règle du jeu systématique.
Je vais devoir vous interrompre maintenant pour laisser la parole au public, parce que nous avons commencé en retard, mais on nous a demandé de terminer à l'avance. Donc, c'est votre tour. Ils ont tous les deux gagné. Et ils ont tous les deux gagné. Maintenant, qui a envie de poser une question ? Je vois plusieurs mains qui se lèvent.
Merci. Bonjour. Alors, j'ai bien conscience du caractère éducatif de ma question. Voilà. Mais du coup, on a parlé des violences tout à l'heure, et donc même des violences psychiques, de remplir un formulaire ou de devoir choisir un toilette. J'ai entendu un reportage d'une personne qui disait, qui annonçait le fait que certaines personnes choisissent de changer de sexe pour que ce soit plus facile d'assumer son genre, qui est en désaccord avec son sexe. Je ne sais pas si je suis claire, mais du coup, donc j'en viens à ma question qui est, donc, par exemple, dans une entreprise, en plus d'avoir par exemple des toilettes non genrées ou des formulaires où on inclurait YEL, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez des outils ou justement des imaginations de fonctionner pour sans qu'un allié, par le privilège d'être cis, prenne une place trop importante, mais soit quand même un allié au sein d'une entreprise? Comment on pourrait gérer ça?
Oui, bah, effectivement, c'est quelque chose qui est déjà en cours de dégenrer. Je ne sais pas si vous avez regardé vos impôts sur le revenu cette année, mais il n'y avait plus de monsieur, madame devant, et je crois que c'est la première année. Et c'est plein de choses comme ça qui, finalement, mises bout à bout, ça enlève cette pression qui est toujours un rappel constant du genre, et donc déjà qui est très désagréable, mais surtout qui peut être dans certaines conditions dangereuse, en fait. C'est dangereux, ces rappels. C'est quelqu'un qui va sortir une carte d'identité au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça peut être grave, et ça peut conduire à des violences qui, pour le coup, sont physiques. Donc déjà, la violence mentale, elle est là, elle est entretenue, mais enlever le plus possible le genre, parce qu'au final, je pense que c'est pas juste bon pour les personnes qui sont trans ou qui sont non-binaires, c'est bon pour tout le monde d'enlever au maximum cette notion et cette différence qu'on retrouve partout, homme, femme. Et cette différence qu'on retrouve partout, elle est sexiste au possible. Et c'est insupportable d'avoir toujours cette notion-là. Et un individu n'est pas désigné que par son genre. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer dans la sphère publique. Mais pas seulement pour protéger les personnes trans. Oui, bien sûr, mais en fait, pour aider tout le monde, parce que ça fait vraiment partie de cette pression au quotidien.
Moi, je répondrais, mais bon, voilà, je défends ma discipline, mais que c'est aussi une question de design. Il faut qu'il y ait des projets de design et qui reposent la question pas seulement de comment les personnes trans vont aux toilettes sans connaître des violences physiques, mais jusqu'à ce que ça veut dire d'aller aux toilettes, pourquoi on organise les toilettes par genre, comment construire des toilettes qui soient hygiéniques, écologiques, tout ce qu'on veut, où la question du genre soit dedans et au cœur. Donc il faut solliciter des designers formés à ces questions et envisager ces choses-là, non pas comme « oh, on va enlever la petite case parce que c'est oppressif et c'est réglé, et du coup on s'auto-congratule en disant que c'est super », mais engager vraiment ça comme des projets de conception, en fait.
Une autre question ?
Oui, bonjour. Alors du coup, moi je me demandais, parce qu'on n'a pas forcément trop parlé, je crois, c'est un sujet que je trouve assez intéressant, c'est la lutte de respectabilité. Voilà, quelle place ça peut avoir sur... c'est un truc qui est partagé dans plein de luttes de personnes minorisées. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, la question de la lutte de respectabilité?
Je n'ai pas tout compris.
En gros, c'est... Oui, d'accord. C'est le concept de dire qu'on va attendre d'une personne qui cherche à se faire sa place dans la société. Donc ça peut avoir lieu dans plein de situations de personnes qui se sentent un peu exclues. On va lui demander ou on va demander à ces personnes-là de un peu montrer patte blanche, d'être respectable, etc. Et donc c'est un sujet qui est assez important parce que on va dire ah bah quand même elle a. Enfin, j'ai pas envie de faire de polémique ou quoi, mais je veux dire voilà, des fois on va plus donner, enfin avoir une pression plus importante sur les personnes qui vont essayer de se chercher une place dans la société. On va leur mettre une pression plus importante sur le fait d'être bien carré dans leur vie pour prouver que c'est pas parce qu'ils sont un tel qu'ils sont comme ça. Et donc cette pression là, voilà, ça a été théorisé. Moi j'y connais pas grand chose, donc voilà, je veux savoir ce que vous en pensez.
Alors, elle existe, cette pression, et elle est vraiment là. En fait, le fait même de devenir une personnalité, même privée, en fait, c'est même pas public, parce que ça l'est d'autant plus. Quand on est là, ici, bah, effectivement, on représente quelque part une communauté, mais on n'a pas gagné d'élection auprès d'un syndicat de la collectivité. Hein. Le lobby LGBT, c'est pas très bien organisé, je peux vous le dire. Et pour donner un exemple privé, c'est l'an dernier, j'étais à un jeu de rôle grandeur nature. Donc voilà, je fais ce genre de choses-là aussi. Et donc, ça avait été annoncé qu'il y avait des personnes trans, c'était la première fois. Donc je trouvais ça cool, les organisateurs qui préviennent et qui fassent le mieux pour qu'on soit le plus intégré possible et qu'il n'y ait pas de soucis. Enfin, c'était prévenant de leur part. Et un peu après, il y a une personne qui m'a dit, mais de manière bienveillante, mais on va voir tout de suite là où c'est problématique, c'est « Ah bah, effectivement, de vous rencontrer, j'étais un peu inquiet de rencontrer des personnes trans, mais en fait, ça va. » Et en fait, il y a une violence qui est là. C'est vraiment un exemple. C'est que la personne n'était même pas malveillante. Elle disait ça avec bon cœur et c'est pas un souci. Le souci, c'est qu'en fait, elle soit amenée à penser ça. Et que le fait de rencontrer une personne trans fait que cette personne trans représente la transidentité. Et ce qui fait que quelque part, on a une interdiction d'être des connards. Et c'est bien de ne pas avoir le droit d'être des connards, mais parce qu'on est... On représente et on doit être respectable au quotidien pour tout. Et c'est une pression qui n'a pas lieu d'être. Et ce qui fait que le jour où on déçoit quelque part, on peut se récupérer des attaques qui vont être transphobes, qui vont être des attaques à la fois des personnes déçues qui ne sont pas trans, et on peut aussi avoir des attaques de personnes trans et de la minorité, enfin, qui sont minorisées et qui vont nous dire qu'on n'a pas bien fait ce qu'on devrait. Donc de toute façon, il y a une pression, et plus on est public et visible, plus cette pression se trouve. Et c'est vrai que finalement, on se retrouve à intervenir aujourd'hui dans un salon comme celui-ci. Pour ces raisons-là, parce qu'on représente et on doit montrer quelque chose. Et c'est une pression qui est sur notre identité propre au final.
Puis ça donne un gros enjeu aux luttes actuelles, parce que moi j'ai des amis par exemple qui me disent « Mais c'est super, ça avance, tu dois être si content ». Oui, soit, même si ce n'est pas aussi clair que ça, mais ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on va faire de cette percée en fait, qui est en train de se produire, parce qu'il y a une forte dimension intersectionnelle en fait, dans la question, c'est-à-dire que être le ou la bonne trans, ça veut dire souvent qu'il faut bien performer son genre, et puis ça va être au bénéfice des personnes qui sont blanches, qui ne sont pas grosses, qui sont valides, qui n'ont pas de problème de santé mentale, qui ont des papiers, bon, je pourrais continuer la liste indéfiniment, ou même tout simplement qui sont hétéros et ne disent pas « Ah bah en plus, voilà, tu es trans, et en plus lesbienne ou homo, enfin voilà. » Il va y avoir cette reconnaissance plus de la personne trans comme un autre, mais qui me ressemble quand même. Donc ça va se faire au bénéfice des personnes les plus privilégiées. Et voilà, je pense qu'on a cette conscience aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de bénéficier de privilèges immenses. Voilà, enfin, je suis trans, mais par ailleurs, le fait d'être blanc, le fait d'être prof, m'apporte des privilèges conséquents. Et ça fait que je n'ai pas du tout la même expérience que des personnes qui vont être... racisé, en situation de handicap et trans, parce que bien sûr les deux sont possibles. C'est aussi, pour très rapidement reboucler là-dessus, tous ces récits aussi qu'on pointait tout à l'heure aux effets délétères tendent à présenter la personne trans comme n'étant que trans, mais on n'est jamais que trans. C'est aussi un rapport de classe, évidemment. Enfin...
Eh bien, c'est à vous de juger si nous avons été des connards ou pas. J'espère que non. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu nous voir. Et merci à vous.
futur,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales.